c'est bon pour la santé.
Bonjour, ici Camille Chaille en compagnie de François Baruel qui a été médecin en France. Bonjour François.
Bonjour Camille.
Alors ensemble, à chaque semaine, François et moi recevons deux invités qui vont venir nous parler de leur livre ou de leur expertise en lien avec la santé. Aujourd'hui, on reçoit Ginette Bureau qui nous parle de son livre « Guérir la mère, transmission inconsciente » des éditions Fides. On reçoit aussi Anna Bray de la mission Old Brewery qui nous parle d'une nouvelle étude sur l'expérience de l'unité de débordement temporaire pour les personnes en situation d'itinérance en lien avec la santé mentale. On entendra aussi le coup de gueule de Kevin Breton et la fameuse chronique historique d'Eliott Boulat. Bienvenue à C'est bon pour la santé. Alors, c'est maintenant le temps de parler du livre « Guérir la mère, transmission inconsciente » de l'éditeur Fides avec Ginette Bureau. Bonjour Ginette.
Bonjour, bonjour Camille.
Bonjour.
François. Bienvenue en studio.
Ça me fait plaisir.
Alors Ginette, vous êtes écrivaine, oui, vous êtes aussi détentrice d'une maîtrise en création littéraire et d'un doctorat en lettres françaises de l'Université de Sherbrooke. Mm-hmm. Vous vous intéressez au pouvoir des mots et à la résilience par l'écriture.
Absolument.
Alors, entre autres, après une expérience que vous dites vous-même traumatisante, de laquelle vous êtes sortie grandie, vous avez écrit le livre Mona, qui a fait fureur.
Oui, puis qui a été traduit, puis qui a été porté à l'écran aussi avec la suite « Je t'aime la vie ».
Voilà, très bien, exactement. Et en fait, ben, tous vos ouvrages, parce que vous en avez écrit plusieurs, ont tous un point en commun. En fait, même plusieurs. Vous parlez beaucoup de la promotion de l'amour, du partage, de la foi en la vie.
Exactement. C'est mon moteur. C'est malgré l'histoire de Mona, qui est plutôt triste,
oui,
mais avec laquelle j'ai été mise devant la quête de l'essentiel dès mon jeune âge, mm-hmm, avec cet enfant-là. Bien, ça l'a guidé toutes mes...
Vos autres écritures vos écrits. Parce que Mona, donc, était votre fille.
Oui.
Et pour faire une histoire courte, en fait, parce que
à 4 ans, on l'a diagnostiqué de la leucémie. On était en 1970. On nous imagine la suite, c'est quelques mois de survie, aidés de diagnostic puis de statistiques. Mm-hmm. On nous dit préparez-vous à sa mort. Et j'ai eu, en faisant des recherches pour savoir comment on profite du temps qui nous est donné, j'ai vécu une espèce d'expérience sommet j'ai entendu une voix en moi qui disait « traite-la comme si elle allait grandir » parce qu'elle était très malheureuse. On ne lui disait pas qu'elle allait mourir, mais toute notre attitude d'adulte à pointer un objet pour en aller y chercher, on ne lui disait pas qu'elle se meurt, mais notre attitude lui disait. Alors, j'ai commencé à la traiter comme son petit frère qui allait grandir. Mm-hmm. Lui, on le faisait épargner tes sous, on l'élevait.
De la même façon.
Alors, différence.
Oui, j'ai commencé, mais pour faire ça, il faut croire à l'incroyable. Il faut dire, OK, c'est aujourd'hui qui compte. Être heureuse d'être traitée comme son petit frère, mm-hmm, on la traite. Et j'y croyais tellement, j'ai vraiment appris à croire à l'incroyable pour l'amour d'un enfant, pour pas y transmettre toute l'angoisse qui m'habitait quand je pensais à l'année prochaine, comment ça allait se passer.
Bien sûr.
Donc, à 12 ans, je lui ai offert son histoire comme cadeau d'anniversaire. Donc, c'est ça. Mais ça a été le début aussi de quelque chose d'autre. La maladie est revenue après, puis...
C'est ça. Un long chemin, mais j'ai l'impression que votre livre, en fait, « Guérir la mère », vous, c'est votre histoire. Donc, vous vous inspirez évidemment de ce que vous avez vécu avec votre fille. Tout est lié.
Oui.
Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire le livre « Guérir la mère » On parle de transmission inconsciente. Qu'est-ce que c'est?
C'est parce que j'ai été capable d'aller chercher... parce que je voyais des patterns récurrents dans ma famille. Et puis, j'ai été chercher qu'est-ce qui m'habitait, moi. Moi aussi, j'avais un pattern de douleur, une souffrance qui revenait. Mm. Puis, je savais pas, je la trouvais exagérée. dans mon cerveau, ça disait, ben oui, ça n'a pas de bon sens, tu vois bien, on s'écroule pas pour un regard de rejet. Et moi, ça me faisait plus mal, puis j'étais, à force d'avoir toujours cette douleur-là, je suis allée voir l'origine de cette douleur, où j'ai appris.
Mais c'était spontané, j'ai été votre désir d'aller découvrir l'origine de
cette
douleur.
Non, j'ai fait plusieurs thérapies, et je tournais en rond, et puis finalement... À une des crises qui était vraiment banale, mais qui m'a fait bien mal, bien là, j'ai décidé d'aller voir. Et puis, je me suis servi de la technique du EMDR pour être capable d'aller, comme dans un état second, recontacter comment j'ai enregistré la douleur originale. Puis là, j'ai vu comment ça l'avait conditionné toutes mes relations avec les autres. Et c'est ça qui m'a permis...
Est-ce que vous pourriez définir la technique EMDR pour nos auditeurs?
C'est une technique, premièrement, ça s'appelle désensibilisation et reprocessing, puis changer la transmission des connaissances. J'aimerais ça vous trouver la vraie EMDR en anglais. C'est Eye Movement Desensitization and Reprocessing.
Ce sont des mouvements des yeux, des mouvements oculaires.
Désensibilisation et retraitement des informations avec l'aide des mouvements oculaires. Et cette technique-là, on ne sait pas trop. Ça fait une vingtaine d'années que ça existe. Mm-hmm. Le cerveau de gauche à droite qui suit soit des trucs électriques qu'on nous met dans les mains ou le mouvement des doigts. La thérapeute, dans mon cas, elle m'a amenée chercher un souvenir qui était dans le cerveau reptilien et elle l'amène à la conscience. Et puis, bon, elle m'a vraiment bien truqué, moi. Elle m'avait demandé de faire des devoirs. Donc, dans mon devoir, je devais prendre une émotion blessante et puis la décrire, exprimer mon sentiment et aller voir dans mon enfance quelle était une situation qui m'avait fait vivre le même sentiment. Bon, j'avais fait plusieurs exemples comme ça, puis à un moment donné, je voyais bien que je répétais toujours « je me sens pas adéquate »,« je me sens pas à la hauteur », j'étais tout le temps...
Des sentiments que vous retrouviez souvent, vous pouviez les identifier.
Oui, c'est ça, Et ce matin-là, je venais de lui remettre mon travail et puis j'ai dit, bon, on va parler de mon manque de confiance ou de mon manque de... Mais non, elle me dit, ce matin, on va faire du EMDR et elle s'installe, puis elle me demande, là, tu vas aller chercher ton plus vieux souvenir. Et en vivant mon plus vieux souvenir pour la première fois, là, je l'ai pleuré, je l'ai visualisé, je l'ai exprimé, revécu, mais j'ai 2 ans. On a 2 ans, on a vraiment mal, là. Et puis, il y a quelque chose qui se passe dans... Puis, qu'est-ce qui fait beaucoup de peine aussi, c'est qu'on constate comment cet événement-là, où on a appris, c'est un conditionnement qui nous a été donné, ça l'a conditionné toutes mes relations avec les autres. C'est ça, c'est
la... C'est pas banal.
Et qu'est-ce que vous avez découvert à ce moment-là, lorsque vous aviez 2 ans?
Oui, mais vous ne voulez pas que je vous raconte ça.
Non, c'est pas ça. C'est le résultat de l'EMDR vous a fait finalement plonger dans votre petite enfance.
Et pour la première fois, exprimé la douleur.
C'est ça que je voulais savoir.
Bon, c'est ça qui fait que ça nous libère. Une fois qu'on l'a nommé, et là, les expériences après, elle me faisait prendre soin de ma petite fille de 2 ans.
Qui est en vous.
Oui, puis là, elle reprogrammait une autre façon de réagir dans la même situation.
Donc, elle modifiait votre propre souvenir et votre propre vécu.
Oui,
comme si on mettait des patchs, des espèces de réparations.
Sur une blessure.
Non, mais je pense que c'est vraiment digéré. On l'a processé puis on l'a digéré.
D'accord.
Elle perd tout son pouvoir.
Donc, le corps entend une nouvelle information. Et est-ce que quand vous avez revécu, par exemple, une situation avec un même déclencheur, est-ce que vous avez pu observer le changement dans votre comportement?
Absolument. J'en revenais pas. Je disais, Hein, ça marche la thérapie, là? Je viens de me faire regarder ou rabrouer d'une manière bête et puis ça me... Puis là, dans ce temps-là, ma défense, c'était, ben ça y appartient, c'est vraiment
moi.
Là.
C'est pas moi.
Oui, oui, mais toute ma vie, j'avais porté la culpabilité de ma maman qui était vraiment, elle avait des bouts de dépression, puis moi, ça me détruisait.
On sait que cette EMDR, en fait, c'est une technique qui est extrêmement puissante et qu'il faut parfois manier, d'ailleurs, avec un petit peu de précaution. Parce que ça peut faire plonger extrêmement brutalement, en fait, dans certains cas. Et parfois, ça n'est pas tolérable. Hein.
Je pense que c'était vraiment brutal dans mon cas.
C'est ça. Hein?
Parce que la thérapeute elle s'est informée le soir comment j'allais. C'est pareil comme si j'avais eu des gros blocs d'enlever de mes muscles.
Oui,
toute la journée, le lendemain, mon corps avait besoin là, de recharger son énergie. Non, c'est vraiment... Ça bouge en dedans, là, ça n'a pas de bon sens.
C'est une renaissance?
Ah oui, oui. Une autre façon de voir la vie. Mais ça, ça a été ma guérison psychologique. Là. J'avais travaillé avant en thérapie, puis là, je trouvais que je tournais en rond, puis je voulais plus. Alors, je suis allée en EMDR, et là, j'ai vraiment vu qu'est-ce que... c'était inscrit dans moi, puis comment je le transmettais à mes enfants et à Mona.
Gardez-nous la surprise, on va faire une pause et vous nous en reparlez tout de suite après.
Voilà.
On ne choisit pas toujours la route, ni même le moment du départ. On n'efface pas toujours le doute, la vieille peur d'être en retard. Et la vie est si fragile. On ne choisit jamais de vieillir. On voudrait rêver un peu plus. La vie n'est pas faite pour mourir. On meurt souvent, bien entendu, car la vie est si fragile. Est si fragile. Est si fragile, est si fragile. On n'atteint pas toujours le but qu'on s'était fixé autrefois. On ne reçoit pas souvent son dû. La justice choisit où elle va et la vie. On est seulement ce que l'on peut. On est rarement ce que l'on croit. Sitôt on se pense un Dieu. Sitôt on reçoit une croix. Car la vie est si fragile. On marche sur l'or ou sur l'argile, dépend de ce qu'on a reçu. On reste tout aussi fragile. Pourquoi donc se marcher dessus? Car la vie. Car la vie
Ginette Bureau, vous nous disiez à quel point vous aviez pris conscience des mémoires que vous retransmettiez à votre propre fille Mona à l'époque. Alors, on vous écoute. Qu'est-ce que vous avez découvert à ce niveau-là?
J'ai découvert, premièrement, j'ai fait un lien avec la maladie de Mona, qui est morte de la leucémie, et ma mère est morte du cancer des os. La leucémie, c'est la moelle des os qui se désagrège, qui devient, elle est plus vivante. Et le cancer des os, ben c'est les os qui s'effritent puis qui cassent. Alors, j'ai vu qu'il y avait un lien. Il y a aussi un lien, il paraît que en psychogénéalogie, la mémoire cellulaire du père, c'est le premier enfant qui l'a. La mémoire cellulaire de la mère, c'est le deuxième enfant. Et la mémoire cellulaire des deux parents combinés, c'est le troisième enfant, ainsi de suite, là. Et j'ai fait le lien. Ma mère, elle avait la mémoire de son père. Et moi, j'avais la mémoire de ma mère. J'étais la deuxième de la famille. Et Mona était la deuxième de la famille. Donc, elle avait la mémoire de moi. Mm-hmm. J'ai vraiment travaillé ça. J'ai travaillé aussi les âges. Mona, à 4 ans, elle a eu la leucémie. La première, elle a été guérie pendant 8 ans. Après ça, à 12 ans, elle est tombée malade. Et moi, à 4 ans, ma mère me mettait pensionnaire parce qu'elle faisait une dépression. Elle avait 27 ans. J'avais 27 ans quand Mona est tombée malade.
C'est incroyable.
J'ai pas fait de dépression, mais j'ai été forcée à aller en moi chercher des forces pour dépasser cet événement-là. Et à ce moment-là, quand Mona était malade, ma mère et mon père ils n'étaient pas très, très proches, mais là, ils ont donné le coup, puis ils ont vraiment venu nous supporter, puis nous aider. Et Mona, elle a fait une rémission extraordinaire, aussi par mon attitude. Moi, je chassais tout le monde qui ne pensait pas comme moi, là. Je veux dire, j'allais voir le médecin, on la suivait, je me bouchais les deux oreilles, puis je me disais, quand il me parlait de statistiques, puis « Madame, préparez-vous,
oui,
ça va faire moins mal. »
Vous n'avez pas écouté ça.
Non, moi, je me disais, toi, tu es un médecin, fais ton travail. Moi, le mien, c'est de croire en la vie de ma fille. Et ça a fonctionné.
Ça a eu un impact.
Oui. Mais j'en reviens à quand la maladie est revenue, c'est que mes parents se séparaient. Ma mère était très exigeante, très manipulatrice. Elle avait besoin de moi, elle se sentait dévalorisée. Et moi, j'étais pris dans cette tempête-là. Mmh. La maladie vient... Il paraît qu'il y a un bouc émissaire dans une famille pour exprimer quelque chose.
Mmh,
et puis là, j'ai vu que mon âme... Ben, j'ai vu... Là, après avoir fait le travail, là, que Mona, elle exprimait tout le malaise qui se passait dans la maison, fait que, puis dans les générations. Et puis, Mona était très consciente de ce que ma mère me faisait de manière très insidieuse. Là. Je pouvais pas...
En être consciente à ce moment-là.
Je me sentais mal parce qu'il me semblait que j'en faisais jamais assez, je me sentais coupable. Et puis, finalement... Mona m'a dit un jour, « Mom, si mon père puis toi, si vous vous séparez puis que vous me traitez comme grand-maman elle traite, là, ben vous allez manger de la chenoute toutes les deux parce que je vais vous ignorer. » Puis là, je me disais, ben on parle pas de même, là, tu sais, mais dans le fond, je me disais, « All right, ma fille, c'est ça qu'il faut faire, faut se couper avec la... » Mais finalement, bon, ben Mona... Elle en est morte, et puis tout
on
ça...
On est désolé d'ailleurs, hein, parce mais que
vous,
c'est...
Vous citez d'ailleurs, page 123, vous citez Bouddha.
Oui.
Et vous dites, c'est très joli d'ailleurs, « Une famille est un endroit où l'esprit entre en contact avec l'esprit des autres, et si tout va bien, c'est un jardin fleuri, et si rien ne va, c'est un jardin ravagé. »
C'est ça.
C'est vraiment très joli. Et alors, pour la psychogénéalogie, je voulais vous dire aussi que on a fait des études, on a découvert des choses, c'est qu'en fait, quand une mère est stressée, une mère souriceau, est stressée...
Ah, elle a des bébés stressés.
Elle a des bébés stressés sur 4 générations.
Ouais. Mais ce qui est, en épigénétique, ce que j'ai découvert et qui me donnait beaucoup, beaucoup d'espoir, c'est qu'on dit que si les bébés stressés de la maman stressée sont pris en charge par une maman
absolument
calme et douce...
Exact.
Et, elle n'aura pas des bébés stressés. Elle va être une bonne mère pour ses...
Mais donc, c'est une guérison. C'est vraiment selon ce qu'on retransmet.
Il y a une guérison possible.
Moi, je pense que quand on prend conscience, on n'est plus géré par le déterminisme. On est géré par le projet de notre propre vie.
Mais alors, j'ai une question. Est-ce qu'on peut être surpris? Est-ce que ça veut dire qu'on peut être nombreux à vivre un peu la vie de nos ancêtres et non notre propre vie?
On vit... Tout ce qui est inconscient qu'on porte là, il agit en nous. Les petits-enfants et les arrière-petits-enfants sont l'histoire des ancêtres qui sont venus avant. Moi, j'ai fait l'histoire de ma famille de l'autre côté, ma famille bureau, et j'ai découvert tout l'amour de la vie que j'avais, d'où ça me venait. J'ai découvert que quand on fait notre histoire familiale, on se rend compte que quand on travaille nos racines,
oui,
ça les ravigote.
Bien sûr.
Puis c'est vraiment après avoir fait cette histoire-là où j'ai eu plus de force, puis j'ai été capable d'aller voir dans l'ombre la racine qui était blessée dans mon autre famille. Il faut aussi se nourrir de toutes nos racines.
Autant le côté blanc que noir.
Ouais,
si je fais
j'avais l'impression,
oui.
Si j'avais l'impression que si je coupais cette racine-là, des fois c'est beaucoup plus facile de couper avec un côté de notre histoire.
Hein. Bien sûr.
Mais donc je coupe aussi beaucoup de bons côtés de cette racine-là. Donc j'ai eu envie d'aller guérir cette racine-là
et d'aller jardiner votre propre jardin.
Ouais, puis aller voir. Ma mère, elle voulait pas me faire de peine, pas plus que moi. Je voulais négliger ma fille, mais j'avais pas appris à me défendre. Et je savais même pas comment défendre mes propres enfants. J'étais toujours coincée entre l'amour des parents puis l'amour des enfants. Oui. Je perdais toutes mes énergies entre les deux.
Mais comment on fait pour se rendre compte qu'on a une émotion ou qu'on porte un vécu, une histoire qui ne nous appartient pas? Est-ce que c'est... Parce que vous dites qu'il faut, oui, s'intéresser à notre histoire transgénérationnelle. Pour une personne qui n'en est pas nécessairement consciente ou qui n'a pas dans son entourage une personne qui a ses connaissances, comment personnellement une personne peut, entre guillemets, se réveiller et se dire « Oh, peut-être que je vis des choses qui ne m'appartiennent pas. » Comment on le ressent à l'intérieur?
C'est pas juste mon ressenti. J'avais mal, oui, toujours le même pattern qui se répétait. Mais je voyais chez mes enfants... J'ai mes fils, pas juste Mona, qui répétaient des patterns. Et en plus, mes fils n'avaient pas d'enfants. Puis là, je disais, j'avais lu quelque part que c'est une défense dans une lignée. Quand on n'est pas bien, on automatiquement, il y a quelque chose qui se passe. En tout cas, il n'y avait pas d'enfants. Et ça me faisait beaucoup de peine. Je disais, je ne comprends pas pourquoi j'ai pas d'enfants. Est-ce que je ne serais pas une bonne grand-mère? Et puis,
beaucoup de questions.
Tout ça a fait que je suis allée voir. Puis pas juste ça. Je voulais comprendre la douleur de ma mère. Pourquoi ma mère n'était pas là affectivement quand j'étais petite? Pourquoi elle vivait des bouts de dépression? Je voulais lui pardonner. Là, je m'étais pardonnée à moi dans ma thérapie, mais je voulais aussi pardonner ma mère parce que je pense que cette dimension-là, ça l'est la guérison spirituelle que je voulais atteindre.
La guérison spirituelle, la vôtre ou celle de votre mère?
Toute la lignée. mais la guérison spirituelle...
C'est un gros mandat.
Je crois que c'est aller très en profondeur en soi et pas juste pousser ça de côté, accueillir la mère blessée, être capable de... Parce que je n'avais pas cette relation-là avec ma mère.
Mais ce qui m'impressionne,
j'étais une bonne petite fille, mais je savais pas, j'avais pas la chaleur...
Présente de votre mère, mais ce que je trouve incroyable en ce moment en vous écoutant, c'est que vous aviez en quelque sorte une mère absente, plus ou moins, vous aviez un besoin, mais vous aviez quand même au fond de vous cet amour inconditionnel envers elle. Vous parlez de vouloir la guérir, c'est magnifique.
Mais sais-tu, moi je pense que j'ai été épargnée parce que j'ai eu le regard de mon père qui était très... Jamais j'étais traitée comme un objet, tandis que ma mère... La grosse différence entre nos deux, puis c'est ça qui m'a guidée dans ma recherche, ma mère, c'était... Elle était une esthéticienne. C'était l'image, c'était la beauté, c'était... Elle faisait du yoga pour avoir un beau corps. Tout était...
Faire paraître.
Tandis que moi, Elle cherchait le pouvoir de l'image, moi je cherchais le pouvoir des mots. Et je voulais être un sujet et non un objet.
Oh, que c'est beau. Mais sur ces belles paroles, on fait une petite pause et on se retrouve tout de suite après.
OK.
Vous écoutez, c'est bon pour la santé.
Donc, nous sommes toujours ensemble, Camille et François. Nous recevons Ginette Bureau à propos de son livre « Guérir la mer ». Et je voudrais citer une chose à propos de votre adolescence. Enfin, vous dites, c'est le chapitre « Mon adolescence, vision de l'amour ». Vous dites, et vous citez, « L'enfant a toujours l'intuition de son histoire. Si la vérité lui est dite, elle le construit. »
Absolument. C'est tellement vrai. Ce n'est pas les douleurs qu'on vit. C'est s'il y a quelqu'un... Parce que tout le monde vit des douleurs, puis tout le monde a de la peine quand ils sont petits. Puis des fois, dans une même famille, un événement n'est pas enregistré de la même façon dans un être ou un autre. Et puis, on constate que finalement, s'il y a quelqu'un près de l'enfant... qu'il lui prend par la main, puis il lui dit « t'as de la peine », et puis il s'exprime, puis garde « maman est fatiguée aujourd'hui, ça va aller mieux demain ». L'enregistrement qu'il fait n'est pas bloqué dans son cerveau, tandis que l'enfant qui est tout triste, puis tout seul dans son petit coin, puis qui vit sa peine, son cerveau enregistre sa mémoire s'imprègne, et il y a une mémoire bloquée. Et puis, c'est ce déblocage-là, finalement, quand on a MDR, moi, j'ai démontré que, oui, on pouvait aller chercher l'émotion qui nous bloquait, puis la digérer et passer à autre chose.
Mais donc, la notion du avant, maintenant et après est primordiale. Ça demande une certaine conscience de notre être et de où est-ce qu'on se situe dans l'histoire du passé, notre histoire maintenant et l'histoire du futur.
Oui, on est... Moi, je jure par la conscience. Quand j'écris et puis que j'arrête d'utiliser mon intellect et puis que j'écoute cette voix, ce soi là, qui sort en moi, parfois je suis tellement surprise des mots qui sortent là, comme les premières fois que j'ai écrit dans des ateliers d'écriture, il est sorti cette phrase. Les élastiques sur mon estomac sont larges comme les bretelles de grand-père. Puis je disais, puis la suite, c'est grand-papa, ta fille, elle t'aimait trop, elle n'est pas capable de s'abandonner à un autre. Puis je parlais de ma mère. Et puis, pourquoi que ça montait? Ça veut dire que j'avais un enregistrement, mais ma mère, tout ce qui touchait à son père, c'était sacré. Mmh. Puis on ne parle pas de mon père, puis bon. Puis finalement, Dans la troisième partie, je la supplie de venir m'aider parce que je voudrais la comprendre, je voudrais l'accueillir. Et ce cadeau m'est venu, à un moment donné, je fais une marche, là, je viens de suivre ma thérapie, puis je dis, je sais, maman, que t'as vécu quelque chose.
Vous lui parlez.
Et puis, elle me donne la scène où elle vit son trauma à 4 ans, où elle voit son père battre son cheval, puis donc elle apprend la violence dans l'amour, elle apprend la terreur du père.
Mais ça, c'est des informations que vous avez reçues d'elle alors qu'elle était décédée et non de son vivant.
Oui.
C'est incroyable.
Oui, mais je me suis souvenue qu'elle avait été ruée par un cheval. Et puis toute la scène, je me suis assise, je m'étais apporté du papier, je marchais dans la montagne et toute la scène m'a été donnée là, mot à mot. Mmh. Et puis, quand mes enfants me disent hey, « je l'ai, là, ce que le grand-père a vécu, là, je l'ai, cette rage-là dans mon corps, moi, là. » Tu vois, les enfants prennent conscience de ce qu'ils sont en train...
Mais ça, c'est parce que vous leur en avez parlé. C'est une importance
ben oui,
de
ben
discuter
oui.
avec
le
nos enfants.
Le secret est sorti, c'est plus tabou, on en parle, et puis on est capable... Donc, ça perd tout son pouvoir.
Oui, cette scène de votre père en train de battre le cheval, c'est une révélation.
Oui, mais j'avais entendu quelque chose comme elle avait été ruée. Puis là, je me suis dit, ah, elle avait 4 ans, elle a été ruée, voici l'image qu'elle a vue. Et puis, elle n'avait pas le droit d'en parler, pas le droit de l'exprimer, parce que c'était le grand-père, il était le pape dans la famille. Oui. Là, tu sais, puis il y avait une gang de filles. Puis,
Mais le travail que vous avez fait maintenant jusqu'à aujourd'hui, ça vous mène... vous-même et vos enfants à une liberté autant de l'âme que du corps.
Absolument. Une grande libération. Et puis, c'est extraordinaire parce que la dernière ligne du livre, je parle à Mona. Moi, je crois qu'il y a un monde invisible et puis qu'il nous aide quand c'est le temps. Puis j'ai plein de preuves que les gens viennent... Puis surtout dans les moments de crise, là, moi, j'avais bien peur des crises puis du chaos. Et là, je me dis, c'est un moment pour faire une poussée, pour aller plus loin.
Oui.
J'en ai plus peur de la crise, puis j'aimerais ça que les auditeurs sachent qu'une crise, ça vient nous donner une poussée pour nous déloger de quelque chose puis nous faire aller plus loin.
Ça, c'est un très, très beau message d'espoir, d'encouragement. On est quelque part tous liés par des émotions différentes, mais on va tous, un moment ou une autre, vivre une peur, une crainte, peu importe. Donc, vous dites que ça sert de tremplin.
Tremplin, exactement.
Et pour terminer, Madame Bureau, il nous reste à peine une minute. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voudriez transmettre à nos auditeurs avec ce sujet-là ou en lien avec votre livre?
C'est sûr que je souhaite à chacun d'être capable d'aller digérer l'émotion qui est bloquée. C'est surtout, il faut écouter ce qui fait mal. Ce qui fait mal, c'est important de l'écouter puis de l'accueillir, notre douleur, et pas faire comme moi puis la raisonner. Parce que quand on est dans le raisonnement, on fait juste mettre l'impact inconscient en banque puis il fait des intérêts. C'est pas bien. Mmh. Mais ce que je veux dire, là, la dernière phrase du livre, c'était, je demandais à Mona, finalement, si elle pouvait faire quelque chose pour un petit être de notre lignée, vienne sur la Terre. Et une nouvelle, le bébé s'en vient.
Okay,
vraiment.
C'est
ouais.
Ça,
alors.
Oui,
c'est
oui.
C'est
puis, je sais pas, mon fils avait 43 ans.
Oui,
donc, on pourra peut-être entendre la suite dans un prochain livre ou dans vos conférences, parce que vous êtes aussi conférencière. Merci infiniment, Ginette Bureau, d'avoir éveillé nos consciences. Et je rappelle le titre de votre livre qui est Guérir la mère, transmission inconsciente des éditions Fides. Merci énormément.
Merci à vous deux. Bye.
La pleine conscience, c'est bon pour la santé. Vous en avez sûrement déjà entendu parler de par la bouche de votre collègue qui arrive pourtant toujours en retard et qui mange toujours son lunch en vitesse pour se dépêcher d'aller faire du yoga dans le vestibule. La pleine conscience tire ses origines dans le bouddhisme. Il s'agit de porter son attention au moment présent et s'auto-réguler, observer ses pensées au gré de leurs va-et-vient, une façon de réduire naturellement son stress et parfois même la douleur grâce à la méditation. La méditation. Jumelez ça à un bon verre de jus d'orange fraîchement pressé et tous vos problèmes seront réglés. Ajoutez à ça une application de relaxation et finis la crise climatique, la pauvreté et les déboires de votre équipe sportive fétiche. C'est une bonne façon de réduire temporairement le stress, oui, mais c'est aussi une excellente manière de détourner votre attention sur les sources et les causes de ce stress. Une bonne façon de vous convaincre que tous les maux du monde ont racine profonde dans votre fort intérieur, qu'il faut accepter cette tragédie pour mieux la vivre, devenir de bons citoyens pleine conscience, bien assis sur votre tapis de sol à vous rappeler que c'est pas grave si on n'aura pas d'argent pour l'épicerie cette semaine et qu'on pourra peut-être pas payer son loyer à la fin du mois. Il vaut mieux intérioriser cette rage et passer à travers. Vaut mieux être confortablement assis sur son tapis de sol que dans les rues à manifester devant les inégalités sociales, justement la cause de votre anxiété. C'est ainsi que le capitalisme a pu détourner les intentions premières du bouddhisme et de la pleine méditation à des fins de préservation pour maintenir le statu quo et faire un peu de piastre en même temps. C'est ainsi qu'une application comme Headspace génère des revenus de 50 millions de dollars par année. Ainsi, oui, si la pleine conscience et la méditation vous aident, apaisent vos malheurs, vous aident à mieux dormir, continuez. Mais ne vous auto-flagellez pas. C'est pas votre esprit qui stresse inutilement. C'est pas vous qui savez pas gérer l'anxiété. Le monde est stressant, vos jobs sont stressantes, les inégalités pullulent, la planète brûle, le capitalisme part chaque dimanche à l'assaut de votre sommeil. Puis on vous vend des oreillères sous forme d'applications non sympathiques pour que vous acceptiez ça dans votre coin. Ça suffit pas. Méditez, regagnez des forces et sortez dehors. Criez, manifestez, allez voter, impliquez-vous dans votre communauté, faites un jardin collectif, allez planter un arbre, allez voir vos grands-parents, criez. Mais surtout, faites pas juste méditer. Parce que vos problèmes sont pas juste dans le creux de votre nombril, ils sont aussi à l'extérieur, dans le vrai monde. La plus grosse arnaque qu'on pourrait réussir, c'est vous faire croire qu'ils existent uniquement dans votre tête.
J'avais 10 ans lorsque mon père nous a laissés. La vie, c'est une forêt de misère à traverser. Mon frère est parti militaire, ma sœur est entrée au couvent. À la petite voile, faut toujours faire avec le vent. Des cours du soir, une bonne mémoire, je passe les détails. Je suis devenu un prof d'histoire, un vrai travail. Un beau matin, un jeune tout croche, comme mes remarques avaient fauché, a sorti un couteau de sa poche, j'ai décroché. J'étais marié, mais mon divorce a pas tardé. La cour, c'était au-dessus de mes forces, j'ai rien gardé. Plus de char, plus d'heures, plus de compte à rendre, plus d'examen, plus rien de côté. T'es dans la rue, tu viens d'apprendre la liberté. Joe, c'est mon chien, un soir d'automne, il m'a suivi. Quand on n'a rien, on vaut ce qu'on donne, je l'ai nourri. Chien sans collier, clochard sans laisse, on se ressemblait. On s'est reconnus, deux purs bâtards de haute noblesse, le cœur tout nu. Je l'ai appelé Joe parce que mon frère s'appelait comme ça. Marcher au pas, c'est une carrière que j'aimais pas. Puis y a des choses que les chiens comprennent mieux et plus vite que les humain, la liberté, l'amour, la haine et le destin. Joe a les yeux de son ascendance, un bleu, un noir. Je lui dis souvent, t'as bien de la chance, ça te permet de voir. Un t'es pareil dans un bulldog et les deux côtés d'un miroir. Et dans les paradis de la drogue, le désespoir. Dans les églises, dans les refuges, ils prennent pas de chien. Je comprends, ça ferait tout un grabuge, chacun le sien. Ça fait qu'on se couche toujours ensemble dans les poubelles de la société. Des fois on dort, des fois on tremble, même en été. Comprends-moi bien, j'accuse personne, je connais mes torts. Je deviens doucement un autochtone dans ton décor. Dans les journaux dont je m'isole, je lis souvent le triste sort des pays où l'argent rigole avec la mort. J'ai 60 ans, des fois je rêve que je viens de trouver une petite cabane sur le bord d'une grève, puis que c'est l'été. J'aimerais bien que mon histoire finisse un peu mieux qu'elle a commencé. J'attendrai pas que la police vienne nous pincer. La terre est une manufacture de sans-abri. J'envoie une gang sur la clôture qui m'ont compris. Chaque fois que tu changes de frigidaire, tu viens de me construire un logis. Jette pas la boîte, y a des affaires qui n'ont pas de prix. La ville, c'est rien qu'un grand village exproprié. Ça tolère pas dans l'engrenage un sablier. Y a pas eu de champ ni les grandes orgues, mais par un 30 en bas de zéro, on l'a trouvé prêt pour la morgue comme son chien Joe.
Vous écoutez C'est bon pour la santé avec Camille Chaille et François Barvel, et nous recevons maintenant Anna Bray, qui est chercheuse à la mission Old Brewery et auteure d'une nouvelle étude sur l'expérience de l'unité débordement temporaire pour les personnes en situation d'itinérance en lien avec la santé mentale. Bonjour Anna.
Bonjour.
Je voudrais commencer tout de suite parce que ce matin dans la presse est apparu un article qui m'a énormément choqué. C'est sous le titre de « Pauvres, handicapés et abandonnés ». Il relate le fait que des policiers ont trouvé dans la rue une pauvre dame atteinte d'une grave maladie mentale. Elle avait été expulsée du logement où elle habitait depuis 10 ans parce qu'elle n'arrivait plus à payer son logement, mais elle ne touchait pas les allocations auxquelles elle avait droit parce qu'elle n'était pas capable de faire la demande. Et que les employés municipaux ou les employés qui sont faits pour ça ne l'aidaient pas du tout et ne cherchait pas à lui faire recevoir ces belles allocations-là. Donc je pense que vous, votre mission Brewery, Old Brewery, a pour rôle justement de recueillir, de soutenir et d'héberger un grand nombre de gens comme ça.
Oui, ben tout à fait. Puis je dirais aussi que cette histoire, cette trajectoire, malheureusement, c'est quelque chose qu'on trouve souvent à la mission Old Brewery. C'est souvent des gens qui ont... de façon théorique, ils ont accès à certains aides sociaux. Par contre, ils n'ont pas nécessairement les moyens, ils n'ont pas nécessairement les gens à leur aider à avoir accès à ces moyens. Donc, par exemple, quelqu'un qui commence à se retenir de leurs travailleurs sociaux, c'est souvent des gens qui se trouvent dans ces situations-là. Puis après ça, ils se retrouvent dans nos services. Et après ça, il faut un peu... la reconnexion avec ces gens-là, avec les personnes qui vont leur soutenir ouais. pour avoir accès à leurs services.
Mais vous recevez en fait des gens qui sont en grande détresse sociale, entre guillemets, je veux dire, des alcooliques ou des gens qui se disent alcooliques ou qui consomment ou oui. qui ont des démêlés avec la police et qui jouent pas le jeu finalement.
Oui, ben en fait, ça c'est une partie des trajectoires que nous rencontrons à la mission Hombury, mais en fait, il y a énormément de trajectoires d'itinérance qui se retrouvent dans nos pertes. Puis, je dirais, oui, c'est un exemple de quelque chose qu'on trouve assez souvent, c'est des problèmes de consommation, des problèmes de santé mentale. Il y a définitivement une représentation importante de ce genre de personnes. Par contre, je dirais qu'il y a aussi une variété importante de gens qui tombent dans nos services, que des fois, c'est une question de vieillissement, des fois, c'est une question de...
Ah, aussi?
Oui, bien, absolument. Avec l'entrée, avec de tout... Bien, nous, avec le shift dans la population envers les baby boomers, nous voyons beaucoup plus de personnes qui vieillissent dans nos services. Mm. C'est souvent des gens qui attendent à recevoir l'aide sociale après 50 ans, mais ils n'ont pas encore leurs 50 ans, donc c'est 65, pardon. Puis après ça, ils se retrouvent un peu...
C'est transitoire.
Exactement. C'est souvent transitoire. Ou des fois, c'est des gens qui ont beaucoup besoin de beaucoup plus de soutien pendant qu'ils vieillissent.
Mais et comment est-ce que... Ça, depuis combien de temps ça existe, d'ailleurs, ça, cette mission Hombury?
La mission Hombury, ça fait plus que 130 ans.
130 ans, ouais. D'accord.
Et vous êtes situé où?
Ben, notre pavillon central, c'est le pavillon... notre campus Saint-Laurent, puis c'est... coin Saint-Laurent et Saint-Antoine.
C'est plus une mission, c'est une institution.
Presque, oui.
Et qui est-ce qui finance ça?
Ben, c'est souvent, c'est des donateurs. On a des organismes qui nous soutiennent de façon, je dirais, plus importante. Mm. Mais en général, oui, on est basé vraiment sur des dons.
Il n'y a aucune aide sociale, aucune aide municipale ou étatique ou fédérale?
Ben, je dirais à plusieurs niveaux, oui, il y a du soutien. Premièrement, si des gens se retrouvent dans nos services puis ont déjà si on a accès à l'aide sociale, ça veut dire qu'il y a une partie de leurs frais de séjour, comme on appelle ça, ouais. Qui est payée par le gouvernement, donc leur chèque d'aide sociale. Ouais. De ce point de vue-là, on a le soutien que ça vient un peu de l'individu parce que c'est le chèque dont ils ont accès. Oui. On a sûrement du financement qui vient du gouvernement, mais ça dépend aussi beaucoup de nos programmes. Comme par exemple, on a le PRISM, qui est notre programme spécifiquement pour la santé mentale. Donc, on reçoit de l'aide supplémentaire du gouvernement et aussi des dons privés. Mais oui, en général, c'est diversifié entre, je dirais, le gouvernement puis aussi les dons privés.
Et c'est, en fait, vous essayez de les réinsérer ou est-ce que vous les recevez comme ça, vous les hébergez?
Ben, il y a les deux. Il y a la réinsertion sociale, mais aussi souvent des gens qui vont se retrouver dans nos services de façon, je ne veux pas dire permanente, mais c'est presque, mais dans le sens que nous avons nos propres logements sociaux. Sociaux. Donc, ça veut dire qu'on va souvent placer les gens dans nos propres programmes. Par exemple, nous avons le pavillon, Jean et Marcel Jean Coutu. Mm-hmm. Et ces gens-là, c'est des hommes en situation d'itinérance qui sont placés directement dans nos propres services. Donc, c'est notre propre pavillon.
Combien de temps est-ce qu'une personne peut rester longtemps? Vous dites pas permanente, mais presque. Ça peut durer combien de temps que cette personne soit chez vous?
Ça dépend de la personne. Généralement, nous tentons vraiment de réinsérer la personne la plus vite possible dans leur communauté. C'est de vraiment leur rapprocher à leur famille, de leur rapprocher à leur communauté comme ils connaissaient avant leur trajectoire d'itinérance. Mais il y a des gens aussi qui sont tellement loin de cette réalité-là qu'ils vont rester avec nous pendant plusieurs années.
Ah oui.
Et justement, comment est-ce que vous avez des techniques ou est-ce que vous avez des services de réinsertion pour leur permettre de se resociabiliser?
Oui, ben 100%. N'importe qui se retrouve dans nos services vont avoir accès à un conseiller, conseillère. Ça dépend vraiment de la personne, ça dépend de vraiment eux, leur propre situation. T'sais, on ne peut pas vraiment comparer dépendance santé mentale avec quelqu'un dans une situation de vieillissement ou quelqu'un qui... les enjeux, c'est beaucoup plus basé sur l'immigration. Ça dépend vraiment de la personne. Puis c'est quoi la question de la réinsertion? Je dirais au niveau un peu plus santé, c'est souvent santé mentale, consommation. Mm. Puis à ce point-là, ça dépend de la personne, ça dépend des enjeux. Puis c'est vraiment basé de comment qu'on peut faire pour l'en mettre avec un conseiller-conseillère. Au mieux travailler ces enjeux-là.
Mais donc, votre structure, c'est quand même... C'est très gros, votre structure, si vous avez des conseillers, conseillères.
Mmh, absolument.
Vous employez combien de personnes?
J'ai pas le chiffre en allemand, mais c'est plusieurs
130,
centaines de personnes. Ouais. c'est beaucoup de monde.
130 personnes?
Non, c'est plus que 130 personnes. C'est définitivement...
Ah oui, d'accord.
Définitivement plus que ça.
C'est énorme, en fait. Ouais. C'est énorme. Et vous pouvez héberger combien de personnes?
Ça dépend des services. Présentement, si je me rappelle bien, sans considérer les lits qu'on a de plus pour l'hiver, davantage pour l'hiver, on a aussi, je pense qu'on a aussi services d'urgence. Puis les programmes transitoires pour les hommes, nous avons plus que 180 lits. Puis dans les pour les logements sociaux, il y a une autre plusieurs centaines de logements et de programmes pour ces gens-là. Pour chez les femmes, c'est un peu moins, mais c'est aussi... C'est...
Parce qu'il y en a moins?
Oui, il y en a moins, mais c'est pas pour dire qu'il y a moins d'intérêt ou moins de besoins.
J'imagine que les besoins doivent être à peu près les mêmes, mais peut-être que les femmes ont tendance à peut-être essayer de se resociabiliser toutes seules, ou est-ce qu'elles sont plus indépendantes de ce point de vue-là?
Je pense que ça dépend de la personne. Encore, ça dépend des enjeux. Par exemple, si nous parlons d'une immigrante qui vient juste d'arriver au Québec, qui essaie de faire la réinsertion sociale, c'est pas nécessairement une réinsertion sociale, c'est l'insertion sociale.
Directement, oui.
Directement, donc... Ouais. Des fois, c'est un peu différent. Puis oui, je pense que le genre, ça joue quelque chose dans un peu comment les gens se remettent dans la société. Souvent, oui, les femmes sont plus indépendantes, mais aussi des problèmes de santé mentale qui sont souvent beaucoup plus invisibles chez les femmes que les hommes. Puis souvent, dans la recherche, on va prendre les enjeux des hommes, puis après ça, on va juste les mettre avec... les enjeux des femmes. On va dire qu'est-ce qui marche avec les hommes, ça va juste marcher pour les femmes, ce qui n'est définitivement pas le cas.
Non, ça, je m'en doute, oui. Mais vous avez beaucoup, vous parlez d'immigrants, il y a beaucoup d'immigrants maintenant, enfin, il y a plus d'immigrants qu'avant.
Oui.
Donc, vous avez beaucoup plus de besoins de ce côté-là maintenant.
100%, oui.
Et que vous arrivez à engager du monde ou vous êtes débordé? Est-ce que c'est plein, le centre?
Oui, mais c'est toujours plein.
C'est toujours plein.
Oui, mais ça fait plus qu'une centaine d'années qu'on est toujours plein. Il y a toujours un besoin.
Et c'est pour ça qu'on dit que c'est l'unité de débordement temporaire. Donc le mot le dit très bien.
Oui, le mot le dit très bien. Puis en fait, ça, c'était un projet qui était partagé entre la Maison du Père, Mission Bon Accueil, Accueil Bonneau et la Mission Aubrey.
Oui.
Puis en fait, l'idée, c'était que ça soit l'unité de débordement qui était partagée entre les services. Puis non seulement ces quatre-là, mais vraiment pour qu'on ait un placement pour les gens qui ne se retrouvent pas nécessairement aussi facilement dans les autres services.
Le débordement, c'est, excusez-moi, c'est, ça veut dire quoi, débordement?
Le débordement, ben, en fait, pendant l'hiver, on a notre nombre de lits en général qui est disponible toute l'année. Mais le débordement, c'est quand les gens y arrivent pendant l'hiver, quand on dirait les températures sont un peu plus intenses. Puis après ça, nous ne pouvons pas accepter ces gens-là à cause de, des fois, c'est des problèmes de consommation plus importantes. Aussi, c'est une question de comme... Ben, on veut pas mettre ces gens dans la rue, mais on peut pas nécessairement les accepter. Des fois, c'est une question de quantité, on n'a pas assez de lits. Des fois, c'est une question d'accès. On peut pas accepter ces gens-là à cause des problèmes de consommation. Des fois, c'est des problèmes où ils sont pas capables de vraiment s'aligner avec les règlements de nos services.
Oui, parce que ça peut créer des histoires avec autant de personnes qui ont quand même un vécu assez complexe. Ça doit créer toutes sortes d'ambiances, d'histoires et de situations.
100%. Puis il y a des enjeux de sécurité dans ces circonstances-là aussi. Donc pour nous, c'est comment gérer cette situation-là, mais en même temps, pas mettre ces gens
dehors. À l'écart, oui.
Est-ce qu'il y a de la violence de temps en temps? La violence de temps en temps?
Oui, ça se peut. Comme n'importe quelle autre situation où est-ce qu'on a plein de gens qui ne se connaissent pas, qui se mettent dans le même environnement, il peut y avoir de la violence. Mais je dirais pas autant que peut-être on peut imaginer... en se mettant dans cette situation-là. Moi, quand j'ai commencé à la mission Aubrey, je travaille dans le pavillon des hommes, je m'attendais que ça soit pas aussi, disons, chaleureux de travailler dans cette service.
Vous êtes agréablement surprise.
Oui, c'est ça. Puis moi, je trouve que c'est quand même une place très agréable pour travailler. Puis je suis très à l'aise comme femme de travailler dans ce service.
Vous êtes là depuis combien de temps?
Ça fait un an et demi.
Un an et demi.
Et malgré donc l'alcool?
Et malgré donc l'alcool, mais...
Non, je ne dis pas que vous êtes là depuis un an et demi malgré l'alcool.
malgré tout.
Il n'y a pas donc tellement de violence malgré l'alcool, c'est ça, en fait, malgré les consommations.
Oui, malgré ça. Puis aussi, nous, on a nos propres standards. On ne peut pas accepter les gens en état de consommation important.
Mm-hmm. Ils le savent, eux, quand ils viennent? Est-ce qu'ils viennent cogner à votre porte? Ils sont conscients de vos règlements?
Des fois, oui. Des fois, non.
Ah, c'est ça.
Ça dépend. Des fois, les gens aussi sont amenés chez nous par la SPVM. Puis des fois, même, je dirais, les agents de la SPVM ne sont pas 100% conscients de qu'est-ce que... Nous, nos standards, ça indique envers la consommation.
Oui. On va en reparler justement tout à l'heure, juste après la pause, parce que c'est très important, c'est un problème très important, ça, justement.
Mm-hmm. Oui, mais juste au niveau de la consommation, généralement, on ne va pas accepter les gens qui sont en état d'inébriété important.
On continue d'en discuter tout de suite après la pause.
OK, parfait.
Vous écoutez toujours C'est bon pour la santé avec Camille Chaille et François Barvel. Et nous recevons donc Anna, qui est responsable de Old Brewery.
Je suis la coordinatrice de recherche.
Ah, voilà, à propos de recherche. Donc, nous étions à cette recherche où il y a eu quelques résultats qui étaient très intéressants. Et ce sont presque pas des critiques, mais c'est un état des lieux qui fait que y a quelque chose à refaire, on dirait. Vous parliez tout à l'heure du fait que les gens qui étaient pris de boissons, comme on dit, ne pouvaient pas rentrer dans votre centre. Mais il y en a quelques-uns quand même. Il y en a, attendez que je retrouve le chiffre exact, c'est 55% qui voudraient que le centre leur permette de réguler leur consommation d'alcool. C'est quand même intéressant, ça, justement.
C'est très intéressant.
Et c'est justement un manque, puisque vous ne le faites pas, ça.
Exactement. Puis présentement, à Montréal, nous n'avons pas de centre de consommation contrôlé. Lorsque toutes les autres villes importantes au Canada, mettons Toronto, Edmonton, Ottawa, Vancouver, ils ont tous des sites comme ça. Puis c'est un besoin. C'est un besoin très important pour la réduction des méfaits, pour tout ce qui est en lien avec l'itinérance. Puis en fait, nous, on ne s'attendait pas nécessairement que ce rapport nous dirige tellement envers la limite de nos service à part l'unité de débordement à Montréal. Puis en fait, ça fait tellement une réflexion importante de qu'est-ce que nous manquons dans nos propres services déjà. Et vraiment, ce qui était notable, c'était vraiment cette critique qu'on avait besoin d'une centre de consommation contrôlée, un wet shelter.
Mais justement, pour avoir un centre, pour pouvoir réguler la consommation d'alcool de ces gens-là, ça demande encore du personnel supplémentaire.
Oui, 100%. Puis nous, on vise que ça doit être une autre site complètement à part aussi de les services que nous avons présentement à Montréal. Vraiment d'avoir une centre d'hébergement qui est vraiment... conçu pour ce genre de service.
C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas les mettre dans le pavillon Jean Coutu. Je rappelle que le pavillon Jean Coutu s'appelle Jean Coutu parce que c'est quand même Jean Coutu qui l'a financé.
Oui.
c'est quelque chose d'important de savoir. Hein. C'est quand même... Ça, je trouve ça très beau.
Et donc, que c'est le département pour les hommes.
Et que c'est le département pour les hommes. Ah oui, parce que les femmes, c'est
Lisoitier. C'est le pavillon Lisoitier.
Je connais moins ça. Je connais moins. Et ça, c'est donc Lisoitier qui a financé ça. Donc, il faudrait un autre pavillon, si je comprends bien, pour pouvoir faire une régulation de la consommation d'alcool.
100%. Puis l'idée, ça serait vraiment d'avoir vraiment une entrée simplesse, beaucoup plus simplesse pour ces gens. Parce que présentement, il y a énormément de règlements dans les services. Ouais, il y a des contraintes au niveau de la consommation. Puis ça serait vraiment important d'avoir ces gens-là. Souvent, des gens qui ils ont des trajectoires d'itinérance chronique, les faire entrer, puis de vraiment avoir des conseillers, des conseillères vraiment avec une formation visée pour ce genre de traitement, de service.
Parce qu'en fait, les gens qui rentrent, donc qui se disent alcooliques, il n'y a strictement rien. Donc, ils ressortent et ils sont toujours alcooliques.
Bien oui. Puis des fois, même, il y a la question de la personne qui savent qu'ils sont alcooliques, mais qui ne reconnaît pas nécessairement les dangers associés avec la sévrance. Puis, il se lève un jour, puis il dit, parfait.
J'arrête,
puis je vais rentrer à la Mission Brewery, à Welcome Hall, puis j'ai arrêté de boire, puis ça va être ça ma vie. Puis ils ne savent pas qu'avec la sévrance, avec l'alcool, c'est un c'est extrêmement dangereux.
Très dangereux.
C'est très dangereux de faire la sévrance totale.
Oui.
Donc, ces gens-là, tout à coup, ils ont des problèmes cardiaques. Des fois, c'est... c'est dans les prochains jours, tout à coup, ils vont avoir des réactions très sévères.
Et des délirium très minces, en fait.
C'est ça.
Et vous, vous devez gérer, gérer ces situations-là parce qu'ils sont chez vous.
Exactement, puis eux-mêmes, ils ne savent pas nécessairement les dangers. Mais souvent, oui. Souvent, oui. Je veux dire que généralement, comme avec les personnes dont j'ai parlé, avec qui j'ai parlé pour ce rapport, c'était énormément des gens qui étaient très conscients du fait qu'il y avait cette dépendance-là, puis c'était une dépendance qui était dangereuse. Mm. Puis pour eux, le fait qu'il y avait besoin d'une place pour s'héberger, comme l'unité de débordement, ou... avec l'entrée à, mettons, 1h du matin, sont capables de boire assez pour après ça se coucher pendant 3-4 heures, puis après ça de se lever, de boire encore.
Oui, à ce propos de se lever tôt, je trouve ça très drôle, enfin drôle, pas pour eux, mais 75% voudraient dormir plus longtemps parce qu'ils en ont assez de se faire réveiller à 5h30 du matin.
Oui, ça c'est énorme. Ça c'était genre la critique, la pointe. Hein. Oui, c'est ça.
Mais ça c'est vraiment des sondages que vous avez menés avec toutes ces questions-là précises.
Ben c'était vraiment des entrevues. Parce que de faire une sondage avec souvent des gens qui étaient souvent dans des conditions un petit peu plus précaires, c'était vraiment important pour moi que ça soit des entrevues ouvertes, oui, où les gens sont capables de s'exprimer de
Ils
façon...
Ils se livrent et vous avez de toute façon l'information, donc c'est précieux de parler avec toutes ces personnes-là.
100% oui.
Et puis, on a beaucoup de chiffres. Moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'on dit 99% des femmes sont contentes du centre.
Oui.
C'est un gros chiffre quand même.
Oui, mais par contre, 67% se sentent en sécurité et 33% en insécurité.
Mm-hmm.
Et pour quelles raisons?
Ben, il y a plusieurs raisons. Dépendant de la trajectoire de la personne, particulièrement chez les femmes, il y en a qui ne vont jamais se sentir bien dans un refuge. C'est aussi pour comparer aussi, tu sais, on a parlé de les femmes, mais oui, c'est aussi important à dire que pour les gens en général qui se retrouvent dans des services d'hébergement, dans les refuges, ils vont pas toujours nécessairement se sentir bien, ils vont pas toujours se sentir en sécurité.
Que ce soit homme à homme ou des femmes avec des hommes, peu importe, là.
Oui, oui, c'est ça. Puis je pense pas que c'est nécessairement un sens de sécurité qui est genré. Je pense que c'est vraiment juste... Ça dépend de la personne. Puis je pense qu'il y a des gens, s'ils ont eu des traumatismes à l'intérieur de nos services, des services en général, ils vont jamais se sentir bien.
Mm-hmm. De toute façon, il y en a 99% justement, comme tu disais, Camille, qui sont contentes dans le centre.
Qui sont bien.
Mais qu'il y en a, mais dont 33% qui se sentent quand même en insécurité. Donc ça fait partie d'une espèce d'insécurité intrinsèque finalement, hein, de chacune. C'est probablement ça.
J'imagine. Je pense que oui.
Mm. Ouais, c'est ça en fait. Ouais. C'est autre chose. Et elle serait dans n'importe quel autre service, ça serait pareil.
Je pense que oui. Puis il y a toujours une préférence pour les services aussi. Il y a certaines personnes qui vont avoir une préférence pour un service qui est mixte, donc comme l'unité de débordement. Il y a d'autres personnes qui vont se sentir beaucoup mieux avec quelque chose qui est vraiment lié à juste les femmes, juste les hommes.
Oui, c'est un vécu qui reste personnel.
Exactement.
Ouais, ouais. Ben écoutez, je vous propose qu'on ait écouté la chronique historique d'Eliott Boulat et on se retrouve tout de suite après.
Donc, Eliott, raconte-nous un petit peu, Siri, comment ça se passait avant?
Eh ben avant, ça se passait mieux, moins bien. On va voir ça.
Oui.
Simplement parce que vous doutez que les indigents, il y en a quand même eu à travers toute l'histoire.
Alors attends, tu vas nous définir indigent.
J'allais le faire justement. Déjà, il faut penser que les pauvres, les indigents, ça se définit toujours dans un contexte. Par exemple, quelqu'un qui est indigent pauvre aujourd'hui aurait pu quand même être quelqu'un qui a une position relativement neutre dans une société antérieure. Alors, je ne vais pas trop parler de l'Antiquité parce que des structures d'accueil d'indigents, de pauvres, il n'y en a pas vraiment. C'est surtout en fait de l'hospitalité individuelle, notamment.
C'est-à-dire que chacun recevait un indigent chez lui,
voilà,
un pauvre, un SDF.
Voilà. Et surtout, il faut penser que dans...
Ce qu'on trouve d'ailleurs dans la Torah.
Exactement. Et on va revenir là-dessus, parce qu'il faut aussi penser que le système d'accueil d'indigents, de pauvres, ça nécessite quand même qu'il y ait une certaine concentration de population à un certain endroit. Dans un milieu rural à 1 ou 2 habitants au kilomètre carré, vous doutez, vous ne recevez pas autant d'indigents que dans une ville, par exemple.
Mmh.
Ça, par exemple, à Athènes, l'hospitalité est quand même extrêmement codifiée. Se rajouter là-dessus, bien sûr, des croyances, notamment le fait que certains dieux ou déesses pouvaient être en fait des indigents déguisés et donc tester...
Ah,
la croyance
d'accord.
Des citoyens athéniens ou des habitants. Il y a beaucoup, par exemple, il y a une forme spécifique de Zeus qui est le Zeus justement itinérant, ou alors parfois Hermès ou même Déméter. Ceux comme ça se baladent sur Terre et ont tendance à voir s'ils seront bien reçus ou bien sûr se cachant. Pensons aussi à Ulysse dans l'Odyssée
qui est dingue, chez ça. Lui. Donc ça veut dire que tu avais vraiment intérêt à recevoir un indigent parce que sinon ça pouvait être Zeus, ça pouvait être Déméter, ça pouvait être Hermès et tu pouvais à ce moment-là passer à côté et encourir peut-être la colère de Dieu.
Et au contraire, tu peux avoir aussi être récompensé pour avoir accueilli. Une des légendes de Déméter par rapport au fait que sa fille Perséphone est enlevée par Hadès et emmenée en enfer, elle va passer en enfer. Déméter va errer sur Terre pendant un moment triste de sa fille lui a été enlevée, ça fait un extrêmement long hiver, ouais. Et en fait elle va être accueillie par une famille, elle va s'occuper bien accueillie, elle va s'occuper de l'enfant et elle va donc lui conférer l'immortalité en liant sa vie à une bûche, qui la bûche sera malheureusement jetée dans le feu par la mère en question, d'accord. Mettant fin à l'immortalité de son enfant. Donc moi je vais m'intéresser un peu plus aux structures en fait d'accueil au Moyen-Âge, parce qu'elles commencent vraiment à apparaître à ce moment-là, ce qu'on va appeler plus tard les hôpitaux. Les lieux d'accueil vont commencer à émerger, d'accord. Au Moyen-Âge et surtout à partir du XIIe siècle.
Attends, je répète, ça veut dire que les hôpitaux, au début, c'était l'accueil des indigents.
Exactement, ce n'était pas uniquement pour la maladie. En fait, d'accord. L'hôpital, l'accueil dans l'hôpital, alors il y a aussi des centres de soins qui existent avant autour de la Méditerranée, notamment les empires musulmans, on a des hôpitaux, des accueils pour les malades spécifiquement à partir du 9e, 10e siècle. Là, en Europe, la forme vraiment de l'hôpital apparaît plus au 12e siècle, tout simplement parce que c'est corrélé à une explosion urbaine, oui. Et une augmentation de la population entre le 12e et le 13e siècle. Avant, généralement, c'est plutôt les monastères qui s'occupent, oui. D'accueillir les indigents, oui. De leur distribuer de la nourriture, sachant qu'en fait, le pauvre, l'indigent au Moyen-Âge, en fait, c'est vraiment celui qui ne peut pas se nourrir. C'est vraiment extrêmement important. Un paysan ne peut être pas très riche, ne pas avoir énormément de possessions, mais il ne sera pas considéré comme pauvre.
Parce qu'il peut se nourrir de toute façon.
Parce qu'il peut se nourrir de toute façon. Exactement. Ouais. Peut-être pas de bonne qualité, peut-être pas en grande quantité, mais il peut se nourrir. Mmh. Exactement. Alors les indigents, ça va être quoi? Ça va être les lépreux, les ardents, c'est-à-dire ceux qui ont mangé de la farine de seigle avec un champignon qui
avec
va donner
le champignon,
exactement le mal
sûr.
Des ardents,
oui, voilà, des ardents.
Qui est un dérivé du LSD, on le rappelle, on le rappellera toujours.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, de temps en temps, et même souvent, les sorcières étaient celles-là. Les sorcières qu'on a brûlées, c'était des ardentes.
Exactement, des gens qui avaient tout simplement mangé de l'ergot de seigle, en fait, voilà. Et qui, du coup, se faisaient un trip sous LSD, mais sans s'en rendre compte, ce qui peut être assez dangereux quand on n'est pas au courant. Même quand on est au courant, d'ailleurs. Et donc il y a aussi tout ce qui est aveugle, mutilé, enfant exposé, c'est-à-dire enfant déposé dans l'intention en fait d'être récupéré par une communauté. Mmh. Et en fait tout cela crée une population tout simplement qui doit être prise en charge par la société, soit à travers la charité chrétienne, parce que la charité met quand même l'accent sur la pauvreté. Il y a même des débats au bout d'un moment, certains ordres mendiants vont assumer la pauvreté, c'est-à-dire le Christ était pauvre, donc pourquoi nous aurions-nous la richesse. Et il faut aussi penser qu'on pense, dites-moi si ça vous rappelle une certaine société un peu plus au sud d'ici, que les pauvres, tout simplement, ont été créés pour être pauvres, pour permettre aux riches d'être généreux envers eux et de bien s'occuper de leur âme.
Mais ça me dit quelque chose.
Moi aussi. nous ne pointerons aucune position géographique plus au sud d'ici. Je vais citer un ecclésiastique anglais qui est devenu un saint au XIIIe siècle, qui s'appelle Matthew Paris. Matthew Paris, on l'appelle aussi dans certains textes. Et lui, il honore plutôt les pauvres. Il donne l'exemple, par exemple, une histoire d'un paysan riche qui aurait demandé au prêtre de sa paroisse d'excommunier des paysans pauvres qui avaient volé dans son champ. Et le soir même, un immense orage aurait ravagé le champ du paysan riche, mais laissé le champ du paysan pauvre intouché. Et à cela, Matthew Paris, en parlant du vol des paysans pauvres par rapport aux paysans riches, aurait dit que ce vol était pieux et pitoyable larcin. Pitoyable dans le sens qui inspire la pitié. Ce n'était pas... c'est un jugement moral, mais un jugement moral positif. Oui, c'est tout simplement un peu comme dans Rambaud des Bois, ils ont tout simplement récupéré chez ceux qui avaient trop pour donner à ceux qui n'avaient pas assez. La pauvreté est vue à la fois comme quelque chose de bien et de mal, en fait. Le pauvre peut être un envoyé de Dieu, mais peut être aussi un être un peu abject. Parce que notamment, au bout d'un moment, quand beaucoup de pauvres se réunissent dans les villes, ça peut mener par exemple à l'apparition de banditisme urbain. Il y a déjà, par exemple, à Paris, au XIIIe, XIVe siècle, des cours des miracles, des endroits où les pauvres, les bandits...
La fameuse cour des miracles.
Alors, ça s'appelle avant la cour des gueux.
La cour des gueux.
Oui, et il y en a deux ou trois à Paris. Il y en a une rue de la Truanderie.
Comme par hasard.
C'est ça.
Et évidemment. Rue des Francs-Bourgeois. Alors, Francs-Bourgeois, ça veut dire simplement qu'ils ne payent pas d'impôts. Parce que eux ne payent...
Ah oui, comme la ville franche,
voilà,
qui ne paye pas d'impôts.
Exactement.
Ah oui,
et eux, tout simplement, ironiquement, comme les locataires de la rue payent pas d'impôts... On va appeler ça rue des Francs-Bourgeois.
Les bourgeois aussi, c'est ironique.
Voilà. Alors, vous avez dit que les hôpitaux accueillaient en fait les gens à partir du XIIe, XIIIe siècle. Ils accueillent trois catégories. Ils accueillent les pauvres, généralement pour une nuitée, les pèlerins et les malades. Les malades étant vus comme ceux qui peuvent être guéris, parce que la maladie est un déséquilibre. C'est-à-dire que tout simplement, les lépreux, les aveugles, les infirmes, eux ne sont pas considérés comme malades parce qu'on ne peut pas changer leur statut. Oui. C'est pour ça, par exemple, que le lépreux, lui, il aura une léproserie. Ce sera un autre endroit pour l'accueillir. Exactement. Non. Sachant que jusqu'au XIIe siècle, la lèpre est une cause tout à fait recevable de divorce auprès du Vatican.
C'est vraiment... Ouais, écoute, merci pour cette conclusion. Maintenant, on va y réfléchir pour faire un divorce. Merci beaucoup, Elliot. C'était vraiment... C'est toujours passionnant ce que tu nous racontes. Merci beaucoup.
À la prochaine.
Vous écoutez toujours C'est bon pour la santé. Restez bien avec nous, avec Camille Chai et moi-même, François Barvel. Et nous recevons Anna Bray pour la suite de Old Brewery, sa mission. Et même, donc, je disais tout à l'heure, c'était plutôt une institution maintenant. Et je voulais savoir si vous avez 1590 clients uniques, c'est-à-dire qu'en réalité, vous avez des clients qui reviennent en permanence. Ce n'est pas seulement 1500 clients à l'année, forcément.
Non. Puis en fait, ça, c'était juste les chiffres pour l'unité de débordement.
Ouais.
Donc, c'est très saisonnier. Ah, puis oui, c'est très particulier. D'accord. C'est pas nécessairement nous, okay, nos propres services. C'est vraiment pour l'unité de débordement. Puis ça, ça indique beaucoup plus le surplus de gens dans les propres services. Bien, dans, pas juste nos propres services, mais vraiment les services à Montréal.
Et est-ce qu'on parle d'unité de débordement? Vous parlez de l'hiver, on parle des saisons. Est-ce que le fait qu'on soit au Québec... l'hiver est un énorme problème, ça, comparé à, par exemple, d'autres pays qui n'ont pas des températures aussi extrêmes. J'imagine qu'il ne doit évidemment pas avoir les mêmes chiffres et les mêmes situations, mais l'hiver, c'est quelque chose en soi quand on parle d'itinérance.
Mais je pense que chaque ville a ses propres un peu...
enjeux
envers l'itinérance puis les chiffres. Comme, mettons, on ne peut pas nécessairement se comparer avec Vancouver où la température est... beaucoup plus raisonnable, on pourrait dire, pour Clément. L'itinérance. Par contre, présentement, la crise des opiades à Vancouver, c'est quelque chose et complètement à part de nous, nos propres réalités avec les opiades.
Vous ne vous en occupez pas de ça?
Ben, c'est définitivement une réalité au Québec, mais ce n'est pas nécessairement comparable avec celui de BC. Donc, je dirais, on ne peut pas nécessairement comparer les chiffres juste en lien avec la température.
Il
y a définitivement un facteur qui va avec ou... Il y a des journées, des soirs où est-ce que nous devons accueillir les gens, peu importe leur situation, peu importe leur état. Par contre, je ne sais pas si vous l'avez noté dans le rapport. Dans le rapport, on a trouvé qu'il n'y avait pas de lien du tout, pas de corrélation entre la température
Absolument.
Et les chiffres,
ouais.
La présence des gens.
Ouais. Oui, oui, tout à fait.
Ce que nous, on ne s'attendait pas à ça non plus.
Ça, c'est vraiment très curieux. Ça, c'est vraiment... Et justement, je me demandais, donc, mais c'est toujours plein de toute façon.
C'est toujours plein. Puis en fait, c'était vraiment indicatif du fait que finalement, oui, c'est une unité de débordement de façon quantitative, mais c'est aussi une unité de débordement dans le sens que c'est les gens qui ne sont pas acceptés ailleurs à Montréal. Donc, peu importe la température, c'est des gens qui avaient besoin de se loger.
C'est ça.
C'est leur dernier recours, en fait. Quand ils arrivent à la mission Old Brewery, vous êtes leur dernière chance.
Bien, plus avec l'unité de débordement.
Oui.
Souvent, ils vont passer par chez nous, puis si nous ne pouvons pas les accepter, puis généralement, on va les accepter. C'est souvent le dernier recours, mais après ça, c'est l'unité de débordement.
Est-ce qu'en hiver, quand il y a justement des SDF ou des indigents, comme disait tout à l'heure Elliot,
oui.
Quand vous faites du maraudage la nuit ou en hiver ou quelque chose comme ça pour éviter qu'il ne trépasse, parce qu'en fait par moins 40
est-ce qu'il y en a beaucoup qui vont y laisser la vie à cause de cette température dans les rues?
Ben, ça arrive généralement, je dirais à Montréal, comme l'année passée on n'avait pas vraiment d'instance. Il y avait le cas du monsieur avec son chien qui est décédé à cause des températures. Mais en général, je dirais à Montréal, on est bien avec les services tels quels pour s'assurer que les gens ne se retrouvent pas dans la rue.
Avec quel service?
Ben, présentement, nous avons une navette à l'OBM. Mm-hmm.
Ah, voilà, c'est ça.
C'est
d'accord.
Ça, OK, c'était ça la question.
C'était ça ma question. Exactement ça ma question.
Nous avons une navette spécifiquement pour ça.
D'accord.
Donc, on prend la navette. Puis, en fait, cette année, on divisait la navette. On avait la navette pour vraiment se circuler au centre-ville pour ramasser les gens qu'on trouvait dans la rue. Mm-hmm. Mais il y avait aussi On avait la navette pour monter les gens jusqu'au Royal Vic, où on avait l'unité de débordement.
Mm-hmm. Mais est-ce que vous connaissez à peu près les endroits où vous êtes susceptible de retrouver des personnes dans les rues? Est-ce qu'il y a des, par exemple, on voit souvent en dessous des ponts ou dans des coins où il y a des portes qui sont un peu fermées. Est-ce que vous avez un circuit, en fait, où vous connaissez le parcours de ces personnes-là?
Bien, en fait, généralement, on garde vraiment nos services au centre-ville, juste parce qu'en général, ces gens-là, c'est pas, je veux pas dire qu'il n'y a pas d'exception, puis il n'y a pas énormément de gens ailleurs, mais c'est de dire pour nous, c'est vraiment de reconnaître les gens qui se retrouvent autour de nos services.
Oui, dans le périmètre.
Vraiment, ça va être vraiment souvent des gens qui vont rester à l'alentour de les services pour les gens en situation d'itinérance, juste parce qu'ils ont accès à tout ce qu'ils ont besoin pendant la journée et la nuit.
Oui. Je voudrais qu'on revienne aux femmes, si je peux.
Mm-hmm. Oui, oui.
C'est, en fait, les femmes sont dans l'unité de débordement. C'est pour quelles raisons, la plupart du temps? C'est des problèmes de consommation ou de familiaux ou de violence conjugale ou...
Ben, dans les entrevues, c'était définitivement, comme chez les hommes, c'était vraiment des problèmes de consommation. C'était souvent des alcooliques.
D'accord, mais ce n'est pas un problème qui est dû à la maternité, parce que j'ai vu dans votre dossier qu'il y avait des problèmes dus à la maternité et des problèmes conjugaux et familiaux. Et c'est donc pas le débordement, c'est dans des logements?
Oui, mais je dirais, en fait, ça, c'est des enjeux qui se retrouvent dans n'importe quel genre de service. Puis
d'accord,
en fait, si on veut vraiment qualifier l'état de la femme qui se retrouve à l'unité de débordement, oui, je dirais que c'est encore quelque chose de plus. C'est souvent une comorbidité de problèmes de santé, souvent de problèmes sociaux, puis... les femmes, donc, moi, j'ai rencontré à l'unité de débordement, se retrouvaient un peu dans des états un petit peu particuliers à cause souvent de la consommation.
Comment est-ce qu'on peut vous aborder, vous donner de l'argent à la mission? Comment est-ce qu'on peut faire pour vous aider?
Ben, on ramasse toujours les dons avec la mission Aubrey. Nous avons notre site internet. Puis, on est toujours à la recherche de plus de soutien. Puis, présentement, nous travaillons fort pour avoir l'unité de débordement encore l'année prochaine. Donc, définitivement, le soutien pour ce projet-là est important aussi. L'année passée, on a eu énormément de dons pour les animaux. Mm-hmm. Lorsque finalement, on n'avait pas tant d'animaux qui se retrouvaient dans nos services, on s'attendait à avoir beaucoup plus de chiens, de chats.
Oui.
Et finalement, il y avait très peu.
OK.
Vous occupez aussi des animaux?
Oui, à l'unité de débordement, les gens qui sont accompagnés d'animaux.
Vous les prenez en charge?
Oui. Mais en fait, on s'attendait à avoir beaucoup plus de gens avec leur chien-chat de compagnie. Puis finalement,
il n'y en a pas tant que ça.
Il n'y avait pas tant que ça. C'est toujours bien qu'ils sont acceptés, mais au niveau des dons, on ramassait énormément. Bien, les gens, ils donnaient énormément.
Pour les animaux.
Pour les animaux. Puis finalement, il n'y avait pas tant que ça. Puis, je dirais, il y avait beaucoup plus... un besoin au niveau de les besoins pour les humains.
Ben oui, bien sûr.
Donc, quel est le site? Le site, c'est quoi? Mission, c'est Mission Albury?
Oui, .ca.
.ca?
Ouais. Si je me rappelle bien. Oui.
Ah ben attendez, quand même,
mais si on se rend sur Internet, on peut certainement, si on écrit ouais. Mission Albury.
Mission Albury, on doit tomber dessus, forcément.
Oui. Est-ce que vous avez une page Facebook?
Oui.
Donc, ça peut être aussi une façon de rentrer en contact avec vous 100%. Pour faire
vraiment,
des dons.
C'est vraiment, excusez-moi, ça me paraît très béotien et je vais paraître extrêmement précieux quand je dis ça, mais c'est un monde que je ne connaissais pas, qui m'impressionne tant c'est intense, tant ça a l'air d'être important et grave.
Oui, il faut prendre ça en considération et on a la confirmation que c'est missionaubury.ca. Merci beaucoup, Anna Bray.
Mais merci beaucoup.
Bonne chance.
Merci.
Oui.
Camille, maintenant c'est le moment de ton billet que j'attends toutes les semaines avec impatience. Juste avant, je voulais dire une chose, oui. C'est que on a vu tout à l'heure avec Anna à propos de la mission Aubrey que le bâtiment avait été offert par Jean Coutu.
Oui.
Je trouve que c'est très beau, on l'a dit, mais ils continuent de donner de l'argent. Et ça, c'est vraiment une très bonne chose. Et Jean-Sébastien, dans mon casque, m'a fait une petite suggestion. C'est que peut-être que Molson, Coors, Belle Gueule pourraient peut-être faire la même chose, hein, puisque au fond, c'est quand même eux qui provoquent les débordements. Enfin, voilà.
Donc, chacun pense
ce qu'il veut, mais c'est vrai que je trouve que c'est quand même formidable de la part de Jean Coutu. Alors Camille, après tout ce qu'on a vu sur justement comment guérir la mer ou guérir la mer, maintenant tu vas nous parler de l'évitement de la réalité en croyant protéger l'autre, c'est-à-dire lui raconter des histoires finalement.
Oui, ça veut un peu dire ça François, parce que je vous partage une situation, un moment que j'ai vécu. Encore une fois, je fais le lien avec mon handicap parce que ça me fait vivre plein de choses intéressantes, parfois un peu choquantes, parfois drôles, parfois mignonnes, bon, peu importe. Donc, c'est toujours un plaisir pour moi de vous partager un peu mes expériences en lien avec, ma différence.
J'adore ça, d'ailleurs.
Et en fait, c'est un moment où c'était une soirée, j'étais invitée à un souper, et à ce même souper, allait y avoir une mère avec sa petite fille qui était peut-être entre 8 et 10 ans, qui avait entre 8 et 10 ans. Et la mère de cet enfant, sachant que sa fille allait me rencontrer et qu'il me manque un bras et une jambe, elle a voulu prévenir sa fille et elle lui a expliqué en fait que moi, il me manquait un bras et une jambe parce que je venais d'un pays où seulement dans ce pays, on peut attraper une certaine maladie du fait qu'on peut perdre un bras ou une jambe. Donc, quand tu parles, François, d'évitement de la réalité en voulant protéger cette femme, puis là, je dis pas ça pour juger, critiquer ou remettre la faute sur ce qu'elle a fait. Oui. Au contraire, je me sers de ça pour en discuter. Je me dis, oh, c'est quand même gros d'avoir raconté cette histoire. Quand on parlait tout à l'heure de transmission, transgénérationnelle, c'est une chose, mais même dans le moment présent, j'ai envie de dire, dans notre incarnation où on est, ben, on peut transmettre des peurs ou des sujets tabous. Et donc, je me dis... puis Elliot est avec nous en studio. Elliot, ça me fera plaisir si tu veux rajouter quelque chose.
Bah, pour revenir un peu sur ce genre, cette tentative de protéger ou d'expliquer à l'enfant et de en fait, créer un problème supplémentaire, ça me fait penser aux parents qui, pour que l'enfant travaille bien à l'école, lui disent « Attention, si tu ne travailles pas bien à l'école, tu finiras plus tard à la rue ou balayeur, etc. »
Eh ben, puis c'est un beau lien à faire avec notre deuxième entrevue.
Je pense que ce que disait cette maman à sa gamine, c'est que en fait, surtout, elle avait très peur de ça. Et tu lui faisais peur.
Voilà, François.
C'est surtout ça.
Oui.
Fait. Elle ne voulait pas regarder les choses en face. Elle voulait que sa fille regarde ça, mais d'une autre manière qu'elle.
En fait, elle voulait, dire à sa fille que sa fille, ça ne pourrait pas arriver à sa fille parce qu'elle en était protégée, parce qu'elle ne venait pas de ce pays où la fameuse maladie venait. Donc, moi, ça a été important, quand j'ai su ça, d'aller parler à la petite fille et de lui expliquer.
Tout à fait. Et j'ai eu une patiente qui un jour m'a raconté que sa mère, elle s'était fait agresser par un homme. Un homme qui l'avait embrassée extrêmement violemment et qui lui avait dit, elle était allée se plaindre à sa mère. Et sa mère lui avait dit, ah mais non mais ne t'inquiète pas, c'est comme ça qu'on dit bonjour dans ce pays-là. Et ça c'est tout simplement parce que la mère avait eu peur et ne voulait pas en parler parce que ça lui faisait trop mal.
Oui.
Simplement.
Ben alors moi, je pense que oui, on a tous des peurs, mais c'est important de s'écouter puis d'en parler les uns avec les autres. Ça fait partie de la vie.
Absolument.
Voilà. Alors pour cette fin d'émission, merci beaucoup. Merci à toi, François.
Oh,
t'es toujours
Camille.
À mes côtés pour
ça
animer
fait tellement
l'émission.
Plaisir d'être là avec toi.
Et merci à Jean-Sébastien Laliberté, Catherine Bourderon, Kevin Breton, Elliot Boulat. Et merci à vous d'avoir été des nôtres. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de
C'est bon pour la santé.